C'est un moment, un peu émouvant pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais en tentant de regrouper en une seule prédication les trois derniers chapitres du livre des juges, je finis le cycle. Hein? Depuis 4 ans maintenant que nous visitons ce livre, eh bien nous arrivons là aujourd'hui à la fin. Et je me suis dit, mais il fallait quand même que je donne une toute petite introduction à ces chapitres. Je ne vais pas tenter de lire les chapitres 10, 9, 20 et 21 avec vous. J'espère que vous l'avez lu à l'avance, sinon on vous encourage à lire. Après, je lirai quelques extraits, mais ça rallongerait encore la prédication si je devais lire tout le passage. Mais ce sont trois chapitres qui vont ensemble, qui raconte les mêmes événements, ce serait un peu faux de les séparer. Et pour certains, c'est certainement des chapitres de la Bible qu'ils évitent plutôt. Ce sont les chapitres qui racontent parmi les événements les plus sombres de l'histoire du peuple de Dieu. Et avant de commencer, je voudrais vous rappeler que Dieu nous a laissé son livre pour que nous le connaissions. Et même ces chapitres ont un doigt qui pointe vers Jésus-Christ et qui signale que Dieu, dans sa grâce, eh bien, il reste fidèle au milieu de l'infidélité de son peuple. Alors parfois, cela est révélé par les méfaits, les faiblesses et les péchés des hommes qui s'éloignent de lui, et Dieu nous montre très clairement ce qui arrive lorsque cela se passe. Donc pensons à cela lorsque nous méditons ce passage. Il est là pour nous montrer le message que nous avons très clairement dans tout le Nouveau Testament, et particulièrement dans l'Épître aux Romains, que sans Dieu, aucun salut. Le salut vient de l'Éternel lorsqu'on se détourne vers nos propres voies. C'est la catastrophe ici, la catastrophe est grande. Je voudrais aussi dire que ce passage est un des passages que vous pouvez citer parfois lorsque les gens vous disent la Bible c'est de la mythologie. Si on était en train de raconter des mythes, on ne raconterait pas les faits accomplis par le peuple, soit disant le peuple de Dieu, qui sont racontés ici dans ces chapitres. C'est encore un des passages qui souligne à quel point la Bible est un livre aussi, un livre historique, véridique et très réaliste. Donc, n'oublions pas cela. Lorsque vous lisez ce passage après, vous dites, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Eh bien, pensez, oui, Dieu donne un tableau très honnête de l'homme que nous sommes, des hommes et des femmes que nous sommes. Alors, comme titre à ce passage, j'ai choisi « Chacun fait ce qu'il lui plaît », la deuxième table. À vous de vous rappeler pourquoi la deuxième table tout à l'heure. Et le sous-titre, l'homme s'obstine dans son péché, Dieu s'obstine dans sa justice, sa sainteté et sa grâce. Je dis s'obstiner pour moi, deux fois s'obstiner, j'aurais pu dire Dieu est fidèle dans sa justice, sa sainteté et sa grâce. Alors, comme au chapitre 17 et 18, que nous avions traité la dernière fois, l'auteur du livre des juges nous fait, dans ces trois derniers chapitres, un récit que l'on pourrait qualifier de journalistique. Il a quitté l'ensemble des récits concernant les juges, là, aucune mention dans ce chapitre d'un juge, si bien qu'aucun d'eux n'est mentionné, même au cours des 5 derniers chapitres. Et cet auteur nous présente, à présent, 2 récits de faits divers. qui sont arrivés donc à l'époque des juges, c'est-à-dire entre la mort de Josué et le choix de Saül comme premier roi d'Israël. Soit, probablement, historiquement, du milieu du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XIe siècle avant Jésus-Christ. Et nous sommes probablement ici au début de cette période, c'est-à-dire sans doute avant la plupart des juges dont nous avons parlé. Ce n'est pas parce que c'est la fin du livre que c'est la fin de la période, c'est au contraire probablement le début de cette période, mais choisi par l'auteur pour nous illustrer la vie que pouvait mener un peuple sans chef. Ces faits divers nous sont donnés comme des illustrations de la vie que menaient les Israélites à cette époque. Donc, comme je vous disais, il est presque certain que ces incidents ont lieu assez tôt dans cette période. Vous verrez à la fin du passage, lorsque vous lirez, qu'il est question du petit-fils d'Aaron, qui est encore le souverain sacrificateur à cette époque. Or, Aaron est mort pendant la traversée du désert, son fils a repris le flambeau, et son petit-fils a été le successeur qui a suivi. Donc on n'est pas très très loin de la période de la conquête. Josué est certes mort, mais nous sommes peut-être tout juste après. Ce n'est pas exactement la date, mais voilà. Les tribus dans ce passage montrent encore une unité de réaction suite au message horrifiant du Lévite, que nous allons voir là au chapitre 18. Et cette unité est très loin d'être montrée dans les autres récits que j'ai traités avec vous. Donc ça montre probablement là aussi que c'est une période peu après le départ de Josué. Je rappelle aussi, en lui disant que Phinéas, donc le petit-fils d'Aaron, il avait commencé son ministère sous Josué. Donc ça prouve encore, je ne sais pas à quel âge il avait au moment de ces récits, mais il était encore en vie. C'est relativement tôt dans cette période, sans doute donc au XIIIe siècle avant Jésus-Christ environ. Ce qui nous montre, en guise d'introduction, il faut moins de temps à un bon fruit de pourrir que de se développer. Quant au thème de ce deuxième récit, il ne diffère pas en réalité de celui du premier, sinon que le premier montrait plutôt l'égarement du peuple d'Israël. Vous rappelez l'histoire de Mika et de son lévite privé, qui ne connaissait apparemment ni Dieu ni maître et qui n'adorait pas Dieu comme Dieu le voulait, dans le domaine donc de la première table de la loi, de la première réponse. Alors que ce deuxième récit fait référence, on ne peut plus clairement, à la deuxième table. L'auteur place sa thèse de base comme cadre tout au début du récit, sous une forme abrégée. Sa thèse de base, donc nous l'avons ici au début, chapitre 19, au passage. Au chapitre 19, nous voyons, au tout début, au premier verset, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Après la mort de Josué, Josué n'était pas roi, mais il était un bon chef. Et nous retrouvons donc cela tout à fait à la fin de notre histoire, comme un cadre du début à la fin. Nous terminons le passage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cet auteur, l'auteur du livre des Juges, vivait sans doute sous le règne ordonné du roi David. Peut-être dans la première partie du règne de son fils Salomon. On ne sait pas, on n'a pas ni son nom ni les dates précises, mais manifestement, il comprend qu'un roi, un roi qui est fidèle à Dieu, est un chef nécessaire à un peuple. Et ce roi, évidemment, pour lui, pointe plus loin que David, qui a vu ses défauts que nous connaissons, vers le roi appelé Messie, le roi qui devait venir 1300 ans plus tard. Alors, notre auteur associe naturellement le désordre de cette époque des juges, à l'absence d'un bon roi. D'un roi qui craignait, qui servait Dieu et qui faisait respecter sa loi. Son point de vue à lui, ce point de vue particulier, devrait nous pousser à saisir, nous, un point de vue plus général. Il est certes très mauvais pour l'humanité, pour tous les hommes, pour les hommes de notre époque, que chaque homme fasse ce qui lui semble bon. Quand dites cela aujourd'hui à l'homme de la rue en France, il veut dire au contraire, c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais le roi humain envisagé par notre auteur pourrait être remplacé par une autre source d'autorité, la source divine, qui donne sa loi divine, sa loi juste. Les normes, les principes de la société, à condition que ces normes et principes viennent de la loi divine, eh bien, peuvent nous conduire à une société, une vie ordonnée, paisible, type de vie qui glorifie Dieu. Sans cette autorité absolue, au-dessus de lui, au-dessus de nos gouvernements, en Occident aujourd'hui, bien sans cette autorité, nous dit l'auteur du livre des Juges, les hommes ne font qu'à leur tête, et cela peut conduire à toutes sortes de désordres, toutes sortes de désolations. Et si vous avez lu le passage, eh bien, vous le saurez, il a trouvé un incident tout à fait approprié pour montrer jusqu'où ça peut aller. Alors, il y a trois volets à cette histoire, je ne vais pas vous le lire, je vais vous le résumer si vous ne l'avez pas encore lu, ou vous rappeler si vous avez déjà lu. Les trois volets de l'histoire correspondent assez bien aux trois chapitres de notre Bible, donc 19, 20, 21. 19, c'est la culpabilité des Gibéa, ville en plein milieu de la tribu de Benjamin. Ensuite, le chapitre 20, c'est le jugement de Benjamin, de l'ensemble de la tribu, parce qu'ils refusent de reconnaître leur culpabilité. Et ensuite, le troisième chapitre, donc le chapitre 21, il y a le deuil pour Benjamin, qui a été puni. Mais au travers de ce chapitre, on voit aussi la grâce obstinée de Dieu. Alors, l'histoire. Un Lévite, habitant les monts d'Éphraïm, a des problèmes avec une concubine. Alors, l'autre tradition pour concubine, il faut le savoir aussi, c'est femme de deuxième rang. Ça se pratiquait à cette époque, c'était pas encouragé par Dieu du tout. Mais lorsqu'on parle de la concubine du Lévite, ça veut dire probablement qu'il a une autre femme. Et que celle-là, il l'a prise, pour quelle raison je vous laisse deviner, mais voilà, il l'a prise en plus. Et cette concubine lui est infidèle, et suite à cette infidélité, elle s'enfuit chez son père, au sud de lui, à Bethléem. Elle ne semble pas trop manquer à notre Lévite au début, il a plutôt probablement une autre femme, mais au bout de 4 mois, il se dit manifestement qu'elle lui apportait tout de même un petit plus, et il décide d'aller la chercher. Il emmène donc un serviteur, 2 ânes, l'un étant sans doute destiné à la concubine lors du voyage de retour, donc il est quand même optimiste. Et il est très bien accueilli chez le père de la concubine, une sorte de beau-père, mais voilà, si on veut. Cette épouse de second rang, fille de ce dernier, donc de cette hôte de Bethléem, eh bien, semble avoir changé d'avis. Peut-être que ses amants passagers ne lui ont pas proposé un foyer confortable. Et elle se dit peut-être qu'elle ne peut pas rester éternellement chez son père. Nous ne savons pas exactement ce qui la motive. Et elle accepte de retourner chez le Lévite. Son père lui, est tellement respectueux des lois de l'hospitalité de ses contrées, peut-être aussi tellement heureux d'avoir une sorte de gendre respectable, parce que on imagine que sa fille n'avait pas très bonne réputation à Bethléem, qui ne veut plus laisser, donc il est tellement respectueux de ses lois, qu'il ne veut plus laisser partir son hôte. Si bien que c'est seulement au milieu de l'après-midi, du cinquième jour, que le Lévite réussit à s'arracher de Bethléem, sachant qu'ils sont obligés de passer la nuit quelque part sur la route, avec sa concubine, avec son serviteur et ses deux ânes, car il est déjà trop tard pour arriver chez lui avant la nuit. Le serviteur, lui, il propose à son maître de passer la nuit à Jérusalem. Premier arrêt envisageable sur leur route. Mais le Lévite n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Pas chez les étrangers tout de même. Yébus est encore habité par les Yébusiens. C'est une des villes que les Israélites n'avaient pas réussi à conquérir. Donc ce sont des étrangers. Ah, pas chez les étrangers, on ne sait pas comment ils vont agir. Nous arriverons, dit-il, à faire les 4 ou 5 kilomètres de plus pour arriver jusqu'à Gibéa, le territoire de Benjamin. Mal lui en a pris. Ils arrivent effectivement à Gibéa, dans le territoire de Benjamin, s'installent sur la place de la ville, au coucher du soleil, et personne ne les invite. Alors là, les lois de l'hospitalité ne sont pas respectées. Malgré le fait qu'ils transportent leur propre victoire, leur propre fourrage, leur propre provision. Quand on ne respecte pas les lois de l'hospitalité en Israël, eh bien, c'est mauvais signe. Enfin, un vieillard arrive, qui n'est pas de Gibéa, mais qui y habite maintenant, il se trouve, hein, qui vient du même coin, hein, de la même région que Lévite lui-même, et lui, il est un peu honte de voir que personne n'invite ce Lévite et sa concubine chez eux, donc il l'invite. Et c'est chez lui que l'horreur arrive. Des vauriens, d'après le texte, des vauriens de Gibéa entourent la maison, commencent à vouloir défoncer la porte, réclament que le nouvel arrivé vienne, hélas, pimenter leur menu sexuel de la soirée. Sodome, deuxième version, mais sans ange. Le vieillard leur propose sa fille vierge. Il leur propose même la concubine de son hôte, ce qui ne respecte pas tout à fait les lois de l'hospitalité non plus. Et ça les fâche. Cet étranger qui nous fait la leçon, c'est un peu comme Lot, hein, ça doit vous rappeler d'ailleurs l'histoire de Lot. Eh bien, il n'apprécie pas. Alors c'est Lévite lui-même qui pousse physiquement sa concubine dehors et ferme la porte derrière. Suit, apparemment, une bonne nuit de repos pour lui, alors que sa concubine, elle est soumise à une nuit d'horreur absolue. Nous ne savons pas combien il y a de vauriens, mais ils la violent apparemment les uns après les autres, jusqu'à ce qu'elle en meure. Et il la lâche donc à l'autre. Son tendre concubin, le Lévite, la trouve allongée sur le seuil au moment où lui, frais et dispos, s'apprête à reprendre la route. Voyant qu'elle ne réagit pas à son injonction de se lever, il la charge sur l'un de ses ânes, rentre chez lui, la découpe en 12 morceaux, qu'il fait ensuite porter par messager au chef des 12 tribus d'Israël. L'énormité de ce crime est telle que les tribus se lèvent comme un seul homme et se rassemblent à Mitzpah, une poignée de kilomètres au nord de Gibéa. C'est le chapitre 18, un chapitre très difficile à lire, et difficile à imaginer, mais qui doit montrer à quel point l'homme sombre si il ne s'incline pas devant le roi éternel. Au chapitre 20, nous sommes donc passés de ce péché terrible au jugement des coupables. Eux, ils viennent de l'ensemble de la tribu de Benjamin, à qui sommet de rendre uniquement les coupables refuse. Ah non, il paraît que les Benjamites préfèrent la solidarité du sang, ah, ce sont des hommes quand même de notre tribu, plutôt que la solidarité ou la fidélité à l'alliance, à la loi de l'alliance. Ces hommes de Gibéa, évidemment, ont trahi l'alliance. C'est donc une guerre civile qui s'engage. Juda est désigné par Dieu pour affronter Benjamin en premier. Il y a une première, puis une deuxième bataille. Mais les Benjamites sont de bons guerriers. Ils ont l'avantage du terrain, si bien que lors des deux premières batailles, ils massacrent 40 000 hommes de l'armée des Israélites, des autres tribus. Alors que de leur côté, il y a au maximum 1000 morts. Les Israélites ne comprennent pas. Ils montent à Bethel, qui est auprès, qui est le lieu du sanctuaire à ce moment-là. Il y a là l'Arche de l'Alliance et il y a là le sacrificateur Phinéas, qui est lui fidèle à Dieu. Ils pleurent, ils jeûnent même, ils offrent des sacrifices avant de recevoir l'assurance de la victoire lors de la troisième tentative. Ils suivent alors un stratagème qui ressemble étrangement à celui employé autrefois par Josué lors de l'attaque de la ville d'Aï. Prennent les Benjamites dans un mouvement de pince et massacrent plus de 25 000 avant de retourner sur tout le territoire de Benjamin pour y tuer toutes les femmes, tous les vieillards, tous les enfants, pour brûler toutes les villes, bref, tout dévasté. Seuls 600 guerriers de Benjamin ont réussi à s'échapper au rocher de Rimmon, à environ 10 km au nord de Gibéa. Benjamin a donc été jugé. Et il est quasiment détruit. Aussi, nous arrivons au dernier chapitre du livre des Juges. Là où les autres tribus se rendent compte de la portée de ce qui vient de se passer. Ils s'alarment de la perte d'une tribu en Israël, peuple de 12 tribus, il n'y a plus que 11. Et ils cherchent le moyen de sauver cette 12e tribu. Le problème, c'est que ces 600 hommes qui restent sont peut-être de très bons soldats, ou en tout cas de bons coureurs, puisqu'ils ont réussi à s'échapper, mais ce ne sont que des hommes. Ils sont donc incapables de laisser une descendance. Et les Israélites, au début de leur action, avaient solennellement juré de ne jamais donner leur fille à des Benjamites en mariage. Mais, quand tout est tendu, et c'est un peu le but de ce passage, le monde, quand l'homme, laissé tout seul, est tendu, quand tout est tendu, on trouve le moyen de contourner un serment. En en faisant un autre. Yabesh, en Galaad, village à l'est du Jourdain, au nord, n'a pas envoyé un seul homme contre Benjamin dans cette action de justice. Aussi, le glas va-t-il sonner pour les hommes et femmes et petits garçons de Yabesh en Galaad. Quant aux 400 filles vierges qui restent dans ce village, eh bien, elles vont toutes avoir un Benjamite comme mari, qu'elles le veuillent ou non. Quant aux 200 Benjamites qui restent, eh bien, ils sont autorisés, eux, à enlever de force les jeunes filles de Silo hein, qui est un village qui est tout près de là et qui a une fête qui arrive, qui sortiront de la ville pour danser lors de cette fête annuelle. Leurs papas ne seront pas coupables de cette manière d'avoir autorisé les mariages parce que, hein, ils n'auront pas autorisé. Et les représentants des autres tribus sauront les convaincre ou les apaiser pour que ces pauvres Benjamites aient des femmes. Benjamin peut donc repartir, en très petit nombre certes, pour commencer à reconstruire ses villes, réparer son territoire. Notre auteur conclut, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, dit-il, en somme, la cause de ces événements si tragiques, si troubles, si déconcertants. Alors, vous avez l'histoire, la triste histoire. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend aujourd'hui ? Qu'y a-t-il dans un tel récit pour notre vie ? Comment est-ce que ce récit nous aide à mieux connaître Dieu ? D'abord, ce récit nous montre clairement la dépravation de l'homme. La première leçon de ce texte nous concerne donc au premier chef, car il s'agit de notre nature pécheresse. L'homme, nous dit l'auteur du livre des Juges, est totalement dépravé. Il attire notre attention sur la gravité, l'horreur de cette dépravation, en racontant cet incident de bestialité, de viol, de meurtre si extrême. Seulement, il ne veut pas que l'on en reste là. Son message tout au long du texte, c'est le message du psaume 14, repris par l'apôtre Paul en Romains 3. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Les hommes de Gibéa sont certes le cas le plus flagrant, le cas qui doit nous faire réagir, nous aider à prendre conscience des ravages du péché. Mais tous, absolument tous les protagonistes de l'histoire sont touchés, impliqués et coupables en partie du déroulement de ce qui se passe. La concubine, elle, est infidèle à son concubin. Elle fait la prostituée, d'après le texte. Et selon la loi de Moïse, en étant infidèle, eh bien, elle était adultère, donc méritait la peine de mort. Son père, sous son respect plus que scrupuleux des règles d'hospitalité, cache, semble-t-il, un amour excessif de la bonne chère, et il est en tout cas coupable d'avoir hébergé une femme adultère chez lui sans la dénoncer. Alors que, sous la loi de Moïse, il devait dénoncer sa propre fille. D'ailleurs, nous pouvons nous poser la question, est-ce que son hospitalité un peu excessive ne nous prépare pas aussi à celle du bon vieillard de Gibéa qui veut protéger son invité au point qu'il est prêt à sacrifier sa fille et la concubine de ce dernier à une foule enragée. Les 11 tribus d'Israël réagissent certes au quart de tour à l'appel du début, mais ils le font au début manifestement sans une prise de conscience de leur propre péché. L'horreur du péché de Gibéa les pousse au départ à réagir en homme juste, scandalisé par le péché de l'autre. Et il faut, semble-t-il, les deux défaites et la mort de 40 000 hommes pour qu'ils saisissent qu'eux aussi, ils ont besoin de se repentir. Ils montent à Bethel, ils pleurent, ils jeûnent et ils offrent des sacrifices parce qu'ils se rendent compte qu'eux aussi sont coupables. Ensuite, même après cette leçon, que faut-il penser de leur serment précipité et irréfléchi, et surtout de leur manière de les respecter et faire respecter ? Pas terrible, hein, souffre. Rompre de justice, encourager l'enlèvement de filles, massacrer un village entier pour récupérer les femmes. la justice des Israélites n'est pas un exemple à suivre. Quant aux Benjamites, leur culpabilité est énorme dans cette affaire. Dieu leur dit de pratiquer la justice, de vivre selon la loi de l'Alliance qu'il a établie avec tout le peuple d'Israël, et eux, ils préfèrent protéger les coupables. Donner la priorité au lien de sang, en comptant sans doute sur leur prouesse guerrière. N'étaient-ils pas, après tout, les meilleurs soldats d'Israël? C'était un peu la réputation de Benjamin. Leur péché provoque la mort de 100 000 personnes au bas mot et la quasi-extermination de leur tribu. Puis, il y a les habitants de la pêche en Galade qui refusent d'écouter l'appel à la mobilisation et on paye un lourd prix. Même les jeunes filles de Silo qui sont enlevées et mariées de force à des Benjamites peuvent être soupçonnées d'être sorties de la ville pour participer aux danses d'une fête plutôt païenne que fidèle à l'Éternel. On ne sait pas, c'est pas une certitude ce que j'avance là, mais c'est une possibilité. Quant aux Lévites, non, je ne l'ai pas oublié, lui, il fallait vraiment le garder pour la fin. Son attitude est presque aussi difficile à accepter que le comportement scandaleux des hommes de Gibeon même. Pour commencer, il prend une concubine, alors que Dieu veut le mariage, clair, net, monogame pour son peuple. Même si ce concubinage était admis en Israël, la volonté de Dieu était bien connue. Et un Lévite, particulièrement les Lévites, il avait le devoir d'être exemplaire dans sa vie, devant ce peuple d'Israël. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de son comportement devant le danger à Gibéa? Ayant peut-être assouvi son appétit sexuel pendant les 4 jours passés à Bethléem, il ne semble plus avoir de sentiments, ni d'affection, ni de responsabilité envers sa concubine. Il la saisit donc de force, la jette au loup, presque littéralement. Après tout, sans cela, c'était sa propre vie qui était en danger. Ensuite, il n'essaie même pas de savoir comment la nuit se passe pour elle. Mais, après sa propre nuit de repos, il sort tranquillement pour reprendre la route, voit la concubine effondrée sur le pas de porte et ne trouve qu'une chose à lui dire. « Lève-toi, allons-nous-en !» Découvrant qu'elle est morte, il l'emmène chez lui, la découpe en morceaux et fait le grand scandalisé dans le message qui accompagne ses colis macabres. La version des événements, vous lirez attentivement lorsque vous lirez le passage. La version des événements qu'il donne aux tribus pour qu'il venge ou qu'il fasse justice à Benjamin, eh bien cette version cache presque entièrement sa propre responsabilité pour ce qui concerne la mort de sa concubine. Il ne dit pas comment les hommes de Gibeon ont eu accès à sa concubine. Comme échantillon de la mentalité, moi d'abord, on ne trouve pas mieux que notre Lévite. Alors, quelle est l'originalité de cet étalage si clair de l'universalité du péché, de la nature totalement dépravée de l'homme, enseignée tout au long de la Bible? C'est que l'auteur du livre des Juges nous rappelle de façon si concise, pourtant si clair, que tous ces exemples de péché, du plus banal au plus extrême, remontent à la même source, au péché originel. En somme, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comme finalement Ève et Adam, lorsqu'ils ont péché. Cette attitude qui consiste en réalité à rejeter l'autorité, la loi, les normes du roi, c'est-à-dire Dieu, et sa parole, et à se prendre soi-même comme norme et référence, c'est la faute d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Et c'est la pratique courante, prôné, même par beaucoup, de notre société à nous. Chacun fait ce qui lui plaît. Sommes-nous si certains qu'elle n'a pas fait des ravages dans notre société, peut-être même au sein de notre peuple, le peuple de Dieu, comme à l'époque du juge? Revenons-nous constamment, comme cela doit être le cas du peuple de l'Alliance, à la loi et au témoignage, comme Ésaïe nous exhorte à le faire, chapitre 8, verset 20. Ou avons-nous tendance à suivre parfois les goûts et les tendances de notre époque? Bref, être choqué par ce passage de l'Écriture est une bonne chose, certes, à condition que ce choc nous pousse à méditer très sérieusement. Ensuite, nous avons la leçon du jugement. Le jugement qui suit le péché. Le salaire du péché, nous le savons, c'est la mort. Romains 6, 23. Oui, la deuxième leçon, c'est que tout péché conduit au jugement. Et que la peine méritée, tout simplement, la mort. Après la mort de la concubine, au chapitre 20, n'oublions pas donc qu'elle aussi a péché, il y a au chapitre 20, au minimum, 100 000 morts humaines. Sans même parler de tout le bétail de Benjamin qui est également massacré. Cette multitude de morts physiques doit nous rappeler, à nous qui sommes chrétiens, peuple de la Nouvelle Alliance, que le péché entraîne la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Notre vigueur, nous, dans l'éloignement du péché de notre vie, comme dans l'avertissement de tous ceux qui, autour de nous, courent vers ce jugement, doit donc être extrême. Cette grande vérité biblique ne peut pas nous laisser indifférents. Les tribus d'Israël sont affligées par le jugement dont elles sont appelées à être l'instrument en leur propre sein, au milieu du peuple. Ils doivent exercer le jugement au milieu du peuple. Elles finissent, ces tribus, par comprendre, au moins en partie, après deux défaites coûteuses, qu'elles aussi sont coupables, qu'elles aussi doivent se repentir. Et elles nous communiquent ce message si souvent oublié que lorsque l'on est appelé à refléter la justice de Dieu, à annoncer parfois même exécuter son jugement, eh bien, il y a un prix personnel à payer. Ici, 40 000 hommes de Judas et de l'armée d'Israël sont comptés les frères et sœurs perdus avant la fin de l'histoire. De plus, quand on est appelé à annoncer le jugement sur le péché, sur cette volonté d'échapper à l'autorité de Dieu, si on aime réellement le pécheur, on ne peut qu'être affligé. On ne peut que pleurer, comme les 11 tribus ont pleuré sur leur frère Benjamin. Qu'en est-il donc de nous, dans ce rôle que remplissent dans notre passage les tribus d'Israël? Sommes-nous, à notre époque si décadente, suffisamment conscients de la gravité du péché et de ses conséquences? Conséquences éternelles. Sommes-nous persuadés que nous reflétons la justice de Dieu, que nous véhiculons dans notre vie son saint jugement, comme il voudrait que nous le fassions? Deuxième leçon mérite également que nous la méditions. Alors, la dernière leçon, Dieu, lui, ne renonce pas facilement à sa grâce. Ça, nous l'avons, chapitre 21. Tous ont péché. Les conséquences du péché sont ne peu plus graves. Même les exécutants, donc, des jugements de Dieu trois fois saints sont faillibles, entachés de souillures morales et spirituelles. Heureusement que rien de tout cela n'empêche Dieu à continuer à exercer sa grâce. Certes, le deuil d'Israël est lié à la préservation de la 12e tribu et peut nous paraître d'une portée bien limitée. Quant aux méthodes de réalisation de de la rédemption, de la restauration de Benjamin, elles nous paraissent tordues, maladroites, injustes, voire carrément cruelles. Il n'empêche que Dieu exerce sa grâce envers Benjamin à travers des instruments aussi défectueux que le sont les 11 autres tribus, dans ses actions décrites au 21e chapitre. Nous sommes heurtés, nous, aujourd'hui, 21e siècle, nous sommes heurtés par la dureté du jugement envers la ville de Yabesh. En quoi, demandons-nous, les femmes mariées, les petits-enfants ont-ils mérité la mort? Nous avons raison de nous poser ces questions. Nous sommes scandalisés par la logique qui admet la justice de l'enlèvement de 200 filles qui n'ont rien fait d'extraordinaire, a priori. Le prétexte invoqué étant un serment, sans doute irréfléchi. Est-ce que cela n'aurait pas été plus juste et constructif de reconnaître que le serment était mauvais? De s'en humilier, de demander à Dieu de les en libérer, bref, de consulter la volonté de Dieu, comme lors de la bataille? Mais, si le canal de la grâce de Dieu peut souvent être défectueux, car le Seigneur peut décider de passer par l'homme déchu, cette grâce coule tout de même. Et il ne peut y avoir aucun doute au sujet de la grâce de Dieu dans ce cas. Oui, c'était sa volonté de sauver Benjamin, n'en doutons pas. Après cette descente dans les profondeurs de l'horreur du péché, c'est bien lui qui décide de permettre la survie d'un reste de cette tribu. Et si vous deviez vous en douter, hein, regardez la suite de la Bible. Les descendants de ce reste, c'est qui? Eh bien, c'est le premier roi d'Israël, Saül. C'est la reine Esther qui sauve son peuple, qui est de la tribu de Benjamin. C'est l'apôtre Paul à qui nous devons tant des Écritures. Dieu a voulu que Benjamin survive. Attention, cependant, n'allons pas croire que la grâce de Dieu a effacé toute trace des conséquences du péché de Benjamin dans la vie vécue sur terre par ses 600 survivants. Sans parler du labeur, des privations et de la souffrance impliquée dans la reconstruction d'un territoire dévasté, réfléchissons un instant à la vie et aux relations quotidiennes dans ces 600 foyers. J'invite mes sœurs ici présentes à être particulièrement imaginatives. Chaque épouse dans ces 600 foyers sait que son époux est la cause plus ou moins directe de la mort de toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles et ses tantes. Soit elle sait qu'il l'a enlevé de force et l'épousé sans qu'elle le veuille. J'imagine que dans ces foyers-là, ce n'était pas forcément tous les jours la joie. Donc, restons sur ce rappel du caractère merveilleux de notre Dieu. Ce rappel qui constitue la troisième et dernière leçon de notre texte. Nous avons un Dieu qui est un sauveur particulièrement obstiné. Et il sauve même dans des circonstances où il semblerait que plus aucun salut n'est possible. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons de nous empêcher d'oublier les leçons de ton livre. Nous te demandons de nous aider aujourd'hui à nous demander qui est vraiment le roi dans notre vie. Seigneur, rappelle-nous que si nous refusons de nous soumettre à tes lois, tes normes, ton autorité, à reconnaître Jésus-Christ comme roi parfait de notre vie, Alors, nous reproduisons le type même du péché originel. Nous faisons ce qui nous semble bon au lieu de faire ce que tu déclares juste. Montre-nous, Seigneur, les domaines de notre vie. Nous avons glissé avec la mentalité de notre époque plutôt que de revenir constamment à la loi et au témoignage. Rends-nous prêts à te consulter quant à notre manière d'envisager aujourd'hui la sexualité, le mariage, le divorce. Aide-nous, Seigneur, à placer devant toi les questions médicales qui troublent notre devoir en ce qui concerne l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, notre façon de concevoir les loisirs, les voyages, notre utilisation des biens que tu nous accordes. Donne-nous la foi et le courage qu'il faut pour ne plus accepter de considérer les différents domaines de notre vie sur terre comme un incroyant pourrait les considérer. Et Seigneur, garde-nous de sous-estimer les conséquences du péché. Que notre vie puisse davantage briller de ta justice. Annoncer ton saint jugement à tous ceux qui, autour de nous, courent à leur perte. Éloigne de nous, Seigneur, toute pensée qui pourrait nous chuchoter à l'oreille que ce n'est pas si grave. Que la vie de ton peuple soit à la fois joyeuse et solennelle. Sois glorifié, Seigneur, pour ta grâce si obstinée, si déterminée à pousser le pécheur à la repentance et à le sauver. Nous te louons de ce que nous en sommes les bénéficiaires, sans que nous ayons aucun mérite personnel. Aide-nous, nous te prions, de meilleurs canaux de cette grâce envers ceux qui, comme Benjamin, sont à deux doigts d'une mort certaine. Nous te le demandons au nom du roi des rois, notre Seigneur, notre sauveur et maître, Jésus-Christ.